Chers auditeurs, nous sommes vendredi le 10 avril et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors chers auditeurs, chères auditrices, ce matin, et malgré la mort du cardinal Jean-Claude Turcotte qui nous a tous bouleversés, et malgré cette crise étudiante qui partageait la vie de tout le monde, est-ce que ceux qui ont délogé les libéraux de Jean Charest peuvent ébrouler encore une fois le gouvernement de Philippe Couillard et lui faire réfléchir autrement? Alors, deux événements majeurs qui attirent l'attention de la grande majorité de la population au Québec, mais malgré ces événements marquants, je dis bien marquants, on ne peut pas passer inaperçu cette nouvelle assassinat de la Caroline du Sud. Alors, il y a quelques jours, un policier de race blanche a tiré 8 fois, je dis bien 8 fois, dans le dos d'un homme de race noire. L'homme assassiné froidement et père de 4 enfants, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo qui donne froid au dos. En la visionnant, on se sent traversé par un choc électrique tellement que l'image symbolise justement l'injustice dans son état d'âme et la vulnérabilité des citoyens face à l'autorité policière. Je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, fortement d'aller visionner cette vidéo pour ceux qui l'ont pas vue et peut-être la revoir une seconde fois pour ceux qui l'ont déjà vue. L'exercice est d'observer le degré, je dis bien, le degré de la froideur avec laquelle le policier avait abattu sa victime. Vous allez aussi assister l'image, et le comportement souvent dérangé à l'œil nu de la majorité des policiers, non pas de la Caroline du Sud, mais un peu partout au monde, et notamment au Québec, où l'impunité policière bat son aile. Alors je vous résume cet événement tragique, chères auditrices, chers auditeurs. Tragique, je dis bien tragique, non seulement pour la victime, mais tragique pour tous les citoyens du monde, parce que quand ceux qui sont supposés de nous protéger et protéger nos vies deviennent eux-mêmes nos agresseurs, agression qui peut aller jusqu'à donner la mort dans l'indifférence totale, il y a de quoi d'avoir peur, il y a une inquiétude troublante. On sent que nos vies sont menacées à tout moment. Alors, Monsieur Walter Scott n'a jamais pensé mourir de cette manière un peu trop dégueulasse. Alors bref, comme vous le savez, pour un simple contrôle routier, un policier arrête un individu, je pense que le début de cette semaine-là. Alors l'individu qui avait apparemment n'a rien commis d'illégal, la victime qui avait peur d'être arrêtée par la police pour une question de pension alimentaire, imaginez-vous, une pension alimentaire, alors il tente de se sauver, et au moment où le policier était en train de vérifier ses papiers, il prend la fuite. Le policier l'attrape rapidement, il y a une simple altercation, le policier tente de maîtriser le fuyard, il le shoot une première fois par un pistolet taser, il atteint la victime, mais celui-ci arrive quand même à s'échapper. Il entame une fuite à peine, je dis bien à peine, de quelques mètres, 2, 3, peut-être 4 mètres maximum, et c'est à partir de là que le drame commence. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, le taser est tombé de la main du policier, il est tombé à peu près à l'endroit de l'altercation. Attention, quand je dis altercation, il n'y a rien de menaçant de la part de la victime. Tout ce que la victime souhaitait, c'était de fuir et de ne pas s'exposer à cette putain de pension alimentaire, pour des raisons non dévoilées pour le moment. Alors maintenant, une fois la victime s'est éloignée 3 ou 4 mètres du policier, peut-être même 5, ce dernier qui aurait pu le rattraper une seconde fois, s'il a réellement voulu, parce que la victime ne courait pas trop vite. À la rigueur, il aurait pu le rattraper une seconde fois, comme il a fait dans sa première. Malheureusement, la vidéo nous révèle l'atrocité de ces abrutis de l'ordre. Il ouvre, je parle du policier, il ouvre le feu avec un sang-froid incroyable. Combien de fois il atteint le dos de la victime? 8 fois. Alors 8 fois dans le dos, position de fuite, la victime criblée de balles, il tombe. L'ordure du policier marche calmement vers le corps, 8 balles. Il l'a condamné à une mort plus que certaine. Et qu'est-ce qu'il fait après cette, à votre avis, après cette, cette, après avoir tiré 8 balles, alors il lui tordre les bras en arrière du dos avant de lui passer les menottes. Quand vous tirez quelqu'un dans le dos, chère auditrice, chère auditeur, on appelle ça un meurtre avec préméditation, ni plus ni moins. Et cette mort devra nous faire penser à plusieurs victimes qui sont tombées sous les balles de la SPVM ici à Montréal, et je ne cite pas le cas de Freddy Villeneuve, même s'il est un bon exemple, mais je citerai celui de Farshad Mohammadi. Vous l'avez sûrement oublié, cet ignorant est mort quasiment dans les mêmes circonstances, et je n'oublierai jamais le 6 janvier 2012 dans la station de métro Bonaventure. Comment Farshad Mohammadi, voulant lui aussi s'enfuir, il était, le pauvre à son tour, abattu par plusieurs projectiles dans le dos. Une fois vous tirez quelqu'un dans le dos, la préméditation de tuer est pas très loin. Ici au Québec, c'est encore pire que les États-Unis. Ici, on a détourné, imaginez-vous, le regard de la population québécoise de cette préméditation de tuer. On a braqué le regard de toute une population vers une autre destination d'amusement, santé mentale, itinérance, problème de pauvreté, tous sauf que le sans-abri était abattu dans une position où la préméditation de tuer était présente. Alors il y avait ce goût de tuer qui a précédé la fusillade. Bref, les deux cas sont quasiment identiques. Des individus vulnérables dans des sociétés où l'impunité policière fait partie du décor politique et d'une mentalité longtemps enracinée, un peu difficile à déloger. Alors, dans cette nouvel assassinat de Walter Scott, on constate plusieurs anomalies qui viennent dévoiler l'attitude des policiers une fois leur geste criminel est déposé. Alors, il y a maquiller le meurtre ici en légitime de défense, alors qu'on a aussi, qu'on n'a pas voulu emparer, ou plutôt on a voulu emparer de son pistolet, qu'il a eu peur pour sa vie, qu'il a eu peur pour la vie de ses collègues ou de déclarer qu'ils sont victimes de chocs nerveux, toute une série, une version, je dis bien, une version similaire, toujours répétée. On dit qu'elle était enseignée dans des écoles professionnelles, et le pire, que ça marche. Même si cette formule est répétée des centaines de fois devant des centaines de cadavres, la question ou le doute n'ont pas de place dans cet univers. Bref, cette vidéo qui a surgi de nulle part nous le dit très bien, que les policiers sont des menteurs et des criminels par excellence. Je vais adoucir un peu le tir. On parle ici de la majorité des policiers. Un comportement partagé, observé, documenté. En absence, je dis bien, chère auditrice, chère auditeur, en absence justement de cette vidéo qui venait hanter la classe politique, le dossier était déjà classé. On félicite le meurtrier, on va même le décorer par une médaille de bravoure. Toute une machine prête à défendre le policier à tort ou à raison. Une machine où de l'hypocrisie politique qui protège son bras droit, la force policière. Voilà pourquoi, chère auditrice, chère auditeur, vous ne devrez pas, je dirais bien, vous ne devrez même pas reprocher quoi que ce soit aux policiers, mais plutôt au système qui, d'une manière aveugle et souvent volontaire, que les choses fonctionnent de cette façon. L'impunité policière est dans le menu politique. C'est honteux. Est-ce que cette politique va changer un jour ? Et qui va la changer? Quand j'ai dit que la majorité des policiers sont des menteurs par excellence, c'est une autre vérité amère, malheureusement. Des policiers qui appuient leurs collègues dans le mensonge et la falsification des preuves, malgré que la loi est très claire sur ça. Mais la police a mis les lois de côté pour sortir leur propre loi pratiquée, usée à la longueur de leur carrière. Chère auditrice, chère auditeur, l'assassinat de Walter Scott de la Caroline du Sud devra nous faire réfléchir. Comment devrons-nous faire obliger les politiciens à réfléchir autrement? Voilà, chère auditrice, cher auditeur, pour ce matin, avec vous, ce matin, Adj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. Alors ce matin, nous allons entendre aussi l'histoire d'un couple qui habitait dans la ville de Sherbrooke. Alors ils vivaient sans histoire, aucun problème avec le système judiciaire non plus, et encore moins avec la police. Un jour, imaginez-vous, ces derniers sont embarqués chez eux avec un mandat de perquisition. Alors le couple, surpris de la manœuvre, il ne comprend rien. Alors, je dis bien, marqué à jamais par cette perquisition injustifiée et illégale. Ils tentent d'obtenir justice en vain. Et ce matin, tous les deux, alors je parle de ce couple-là, ils se sont tournés vers vous, chers auditrices, chers auditeurs, vers vous. Alors ils veulent non pas simplement dénoncer, mais vous dire qu'il ne faut jamais, je dis bien jamais, accepter un tel comportement de la part de l'autorité, de la part de l'autorité policière. Après notre thème musical, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons tourner vers ces deux couples qui sont là. Je parle de Stéphane et Martine. Alors, ils vont nous raconter leur histoire. J'espère que vous allez rester en ligne. Après notre thème musical, on va revenir avec cette histoire aussi douloureuse que la première. Restez en ligne.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Sans nouvelles, disparu, volatilisé. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune. La main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et des portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Martine, excellent. Alors, bonjour, chers auditrices, auditeurs, pardon. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine de Québec. Alors, j'ai avec moi dans le studio ce matin Stéphane et Martine. Bonjour Stéphane. Bonjour Martine.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir surtout partager avec les gens qui vous écoutent ce matin le drame que vous avez vécu à votre tour. Alors, si j'ai bien compris, avant de rentrer dans le détail de votre histoire, vous habitez à Sherbrooke en 2013, hein, parce que l'incident s'était arrivé en 2013. Assez exact.
Oui, ben merci de nous accueillir sur votre tribune. Mm-hmm. Nous, pour vous mettre en contexte, on était un couple vraiment tranquille. On avait une petite vie bien ordinaire, comme la plupart des citoyens. Puis, il nous a pris l'envie d'explorer un petit peu d'autres avenues. On est des gens de métier tous les deux. Puis, on s'était dit...
Vous travaillez tous les deux, hein?
Oui, c'est ça. On s'était dit que la région de Sherbrooke offrait...
Ça vous intéresse.
Oui, c'est ça. Avait des bonnes perspectives pour l'emploi, une qualité de vie, puis étant donné que c'est le meilleur des deux mondes, une petite ville, eh bien, on a décidé de plier bagage, puis d'aller aménager dans un logement, pas modeste, mais je dirais moyen, de qualité moyenne, à Sherbrooke.
Voilà.
Un peu en périphérie de la ville.
Alors, vous avez choisi vraiment l'endroit pour le calme, pour la paix, pour...
Oui, il y a certains critères, entre autres, ça devait être bien isolé, pour pas justement avoir de pépins avec les voisins. Nous, on avait un petit chien à ce moment-là, puis ça nous causait un peu de soucis, savoir pour déranger les voisins. Alors, dans cette optique-là, ben, on a trouvé un logement qui nous convenait, puis on était très bien.
Alors, jusqu'à cette date-là, d'aller s'installer dans ce logement-là, parler un petit peu de le système judiciaire avant, et ça vous dit quoi? Est-ce que vous avez démêlé avec la justice avant? Est-ce que,
non, absolument pas. On est des citoyens intègres. C'est ça.
D'avoir
J'ai pas eu de contravention depuis 25 ans, je pourrais dire. On est des gens très consciencieux,
Ça. J'ai même souligné.
Respectueux, puis.
Presque exemplaire. Alors, voilà, vous êtes débarqué dans ce logement-là, vous avez un voisin.
Oui, c'est ça. Bon, le travail, ça va bien. Je trouve de l'emploi tout de suite. Martine, qui souffrait d'un petit problème de santé durant les dernières années, a retardé un petit peu, ses démarches pour trouver de l'emploi. Alors, elle restait à la maison durant cette période-là, souffrant un petit peu de ses malaises.
Mais vous partez travailler, elle reste à la maison.
Alors, on commence une vie rangée, puis on a des projets qui s'en viennent. On a des projets de s'acheter éventuellement un terrain dans la région. Moi, c'était aussi, j'avais l'ambition de partir ma petite entreprise. Je suis concepteur, machiniste, et puis alors j'avais des projets.
Dans le coin un peu artiste, quoi.
C'est ça, exactement. C'est mon côté artistique, créatif.
OK. Voilà. Alors, cette journée-là,
on parle du 22 octobre.
Alors, 22 octobre 2013, vous êtes au travail.
Oui, c'est ça. Juste un petit peu avant, c'est ça, pour revenir un peu à l'arrière, pour mettre en contexte un peu plus l'auditeur, c'est que Martine avait subi une opération majeure.
Martine, c'est votre conjointe, hein?
Oui, Martine, c'est ma conjointe.
Okay,
c'est
voilà.
Ça. Finalement, on a dépêché une ambulance d'urgence.
Sur le lieu,
sur le lieu, c'est ça.
Oui.
Puis, mais à ce moment-là, on se doutait pas qu'on était sous haute observation par un voisin qui a noté tous ces faits et gestes-là.
Oui. Le fait d'être transporté par ambulance?
Oui, parce que c'est mentionné au rapport qui avait été déposé.
Plus tard,
c'est ça. Officiellement, par ce dernier. Là, c'est un voisin. Je ne sais pas si je peux le nommer, mais peut-être le tenir sous silence. Mais c'est ça.
C'est un voisin, point final.
C'est un voisin qui a profité de cet événement-là, une sortie en ambulance pour déclarer aux policiers que la dame souffrait d'une intoxication majeure.
Oui, voilà, intoxication
majeure. OK, sous l'effet d'une drogue.
Mais lui, il connaît même pas votre madame, là.
Non,
il a vu rentrer et sortir, là, j'imagine.
Oui, c'est ça. Nous, on s'est douté qu'il y avait un petit... il n'y avait pas d'atome crochu finalement au début dès notre arrivée. La journée de l'emménagement, on est arrivé avec le camion. Ce même voisin-là est sorti avec sa femme. On pourrait les situer vers les mi-soixantaine, un couple de retraités.
Ouais.
Puis, c'est ça. dès qu'on est arrivé la journée de l'aménagement, moi, ce qui m'a frappé, c'est que le type a baissé les yeux et nous a même pas regardé pendant qu'on était en train d'aménager. J'ai dit bonjour. Alors, ces formalités-là n'ont pas été retournées, les salutations, tout ça. Puis, finalement, il a failli... emboîter sa voiture dans un poteau en reculant parce qu'il n'y avait pas d'espace. Puis c'est ça, il était un petit peu pressé de partir.
C'était le premier contact avec
le voisin. Oui, le premier contact, ça n'a pas très bien fait. Mais finalement, c'est ça, il s'est passé plusieurs mois, mais moi, j'ai toujours salué le type sans me douter qu'il y avait quoi que ce soit contre nous. Ça. Mais... finalement, moi, je suis au travail. Un mois passe. Martine se fait hospitaliser d'urgence. Elle est en convalescence. Elle est à la maison. Elle en a pour 3 mois. Une grosse convalescence. C'est une opération majeure. Elle avait des obstructions sur certains organes qui l'empêchaient.
Alors, problème de santé, quoi?
Problème de santé majeur. Puis c'est ça, l'urgence a fait que... On est obligé de dépêcher un ambulance. Okay. Ça a été interprété de façon erronée ou même détournée pour être utilisé contre nous.
Alors,
ça, c'est le début. Ouais. C'est à partir de ces événements-là qu'on a compris. Que...
Vous avez appris plus tard.
Ce même type, il racontait dans l'entourage des choses que sur nous, puis on pourrait s'en parler un petit peu. Ouais.
Mais Stéphane, revenons un petit peu au 22 octobre. Alors, vous êtes dans votre travail, travaillez.
Oui, c'est ça. Moi, je suis machiniste. Ça fait environ un mois que j'arrive pas à dormir. Martine a des douleurs.
Elle souffre
beaucoup. Je m'occupe d'elle jour et nuit. Ouais. Elle a besoin d'assistance. Puis même sa mère est venue la première semaine. C'est ça, l'aider durant une semaine.
Mais Stéphane, cette assistance et tout, elle ne dérangeait pas les voisins. Vous ne faisiez pas du bruit. Oui, comme tel.
Non, comme je vous ai mentionné, on avait choisi vraiment l'endroit spécifique. C'est ça, pour justement éviter les problèmes avec les voisins. Oui. On avait choisi une habitation qui est de style condo avec un plancher de béton. Oui. Alors, mur mitoyen, on n'entendait rien.
Mais on n'a qu'un moment que le voisin il est venu vous voir pour vous dire, écoutez, là, peut-être vous faites des bruits ou quoi que ce soit. Et rien de ça.
Non, c'est ça. À partir de nos activités, non. Mais on a eu durant le premier mois, justement, on est arrivé au mois de fin février, début mars. Puis un mois s'est passé, on reçoit un téléphone, puis les propriétaires de l'immeuble, c'est ça, ils sont trois copropriétaires. Ils nous avisent qu'ils entendent le voisin adjacent. Ils entendent un bruit de moteur à 9h le soir, puis dans une pièce spécifique, tout ça. Nous, on dit on dort pas dans cette section-là. C'est une salle de séjour. Mais pour nous, il n'y a rien. On ne voit rien particulier.
Mais quand
on sent qu'il y a une intention immédiate de nous nuire d'une quelconque façon.
Mais Stéphane, ce moteur-là, qu'on parlait d'un moteur, on pensait quoi? Il y avait un tracteur qui tournait dans votre appartement ou quoi?
Moi, le propriétaire m'a spécifié, il m'a dit faites-vous de la menuiserie? Avez-vous un bandit dans la maison? Bon, on habite un 4,5, vraiment de grandeur, là, standard, là, il n'y a rien d'exotique là-dedans.
Alors, ce que j'ai bien compris, Stéphane, c'est qu'il n'y avait pas de moteur chez vous, il n'y a aucun moteur chez vous.
Non, absolument pas.
Peut-être que le moteur était dans la tête du voisin, j'imagine. Je sais pas.
On comprenait mal un peu. On a tenté, avec les propriétaires, de les faire venir. Je venais voir s'il y a un problème, tout ça, parce qu'ils avaient installé des nouvelles tuyauteries, réservoirs d'eau chaude. Ça, on a pensé, c'est peut-être...
Peut-être que l'eau est coulée, là.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il commençait...
Il y avait un problème de tuyauterie, c'est sûrement
qu'ils font
du bruit.
Alors, on s'est dit, d'accord, on va limiter nos activités le soir. Mais... les agissements ou les harcèlements s'est poursuivi.
Alors, revenons toujours à ce fameux 22 octobre, vous êtes chez vous, et puis Martine, elle est chez elle, elle est toute seule, et puis la police débarque.
Oui, moi, je suis au travail. Martine m'appelle paniquée, en pleurs. Je la sens très nerveuse. Tout de suite, je lâche le travail. Je laisse le travail.
Vous rentrez rapidement.
Elle me dit, les policiers sont débarqués en masse. C'est un groupe de 6 policiers que j'ai entendu par la suite qui étaient entrés. Martine a dit qu'elle n'a vu que du feu. Elle n'a vu que 2 personnes parce que... complètement ébranlé par le fait que les policiers sont rentrés sans cogner, sans...
Mais comment ils ont pu rentrer ouvrir la porte?
Oui, les propriétaires, par la suite, j'ai dialogué avec eux autres pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Eux autres, ils ont reçu un appel d'un détective pour leur spécifier qu'il avait 30 minutes pour se rendre à un point de rendez-vous pour remettre une clé.
La clé de votre appartement.
La clé de l'appartement. Sinon ils défonçaient
la porte.
Et rentraient, en saccageant
ça, c'est l'enquêteur. Ça, c'est l'enquêteur qui a mené cette opération-là.
Probablement un ou un de ses collègues, oui, proche. Là, ouais, c'est un détective aussi.
C'est on parle de quel enquêteur, le nom de l'enquêteur?
Il y a M. Sébastien Ouimet, qui est
De
la police de Sherbrooke, du SPS, ouais, qui est maintenant sergent détective.
Ouais. Okay. Oui. Et alors que lui, il a la clé, il ouvre la clé, il rentre sans qu'on ait, sans quoi que ce soit. Là, Martine se retrouve. Martine, vous retrouvez face à face à ces policiers-là. C'est quoi votre réaction?
La peur, j'étais complètement terrorisée.
Oui.
Terrorisée
parce que vous ne comprenez pas. Hein,
la
police
n'embarque
pas tous les matins chez nous. Hein.
Non, puis moi, ma plus grande peur dans ma vie, c'est que quelqu'un entre chez moi. Depuis que je suis tout petite, on m'a toujours dit de jamais ouvrir la porte à personne quand je suis toute seule.
C'est la consigne, hein?
Oui, ça a toujours été la consigne. Oui. C'est très important pour moi.
Alors, vous vous trouvez face à face à des policiers, donc?
J'étais déjà face à la porte quand ils sont arrivés, parce qu'on était au deuxième. Mm-hmm. Puis, j'étais face aux escaliers de la porte.
Oui.
Puis, c'est un store transparent, un peu en bambou. Donc, je voyais qu'il y avait quelqu'un. Puis, j'ai vu qu'il a ouvert la première porte. Puis, moi, j'attendais le facteur, parce que j'avais commandé un article par Internet. Puis, j'attendais. Et la première chose, je me suis dit, c'est le facteur, mais c'était pas le facteur. Puis là, il débarre la clé avec la porte. Fait que deuxième chose, je me suis dit, ça doit être le propriétaire.
Ouais. Il rentre là, il débarque. Et ça, c'est la police.
Il est rentré. Puis la première chose que je lui ai dit quand il a monté les escaliers, j'ai mis ma main en avant de moi pour l'éloigner de moi. J'ai dit, touchez-moi pas, je viens d'être opéré.
Oh my God.
Parce que j'avais peur de ce qu'il. Parce que tout le temps qu'il a monté les escaliers, il n'a pas dit un mot.
Oh my God.
Il n'est pas rentré avec le sourire non plus.
Il ne vous a pas expliqué, madame, ne s'inquiétez pas, quoi que ce soit, rien du tout, là.
Non, pas en montant les marches. C'est moi qui ai dit, la première chose que j'ai dit, c'est de ne pas me toucher.
Oui.
Et après, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait.
Oui. Et là, il vous dit quoi?
Ben lui, il n'arrêtait pas de me dire, il y a un juge. La première chose qu'il m'a dit, c'est on a des bonnes raisons de croire que vous faites la culture de cannabis.
Ah, voilà, c'est ça. Voilà.
Puis là, je ne comprenais pas du tout.
Vous n'êtes pas dans le contexte du tout, là.
Non, non, parce que la drogue, on n'a jamais pris de drogue, de
Mais vous cultivez de la cannabis chez vous, c'est ça?
Oui, c'est ce qu'il a dit.
C'est la plainte de. Maintenant, je comprends la plainte du bruit. Du moteur, ça veut dire que vous avez un tracteur qui circule dans l'appartement.
C'est que je crois que le type souffrait de problèmes, vraiment d'une psychose. Jamais il a lâché prise pour nous faire quitter le logement. On a compris un petit peu qu'il y avait une autre voisine juste avant nous, une dame âgée qui avait été expulsée carrément du logement de crainte. C'est ça qu'il y a un voisin.
Avant vous?
Oui, juste avant nous. Le logement était libre. Nous, on est arrivés, le logement était libre, puis c'était des nouveaux propriétaires. Alors, il était un petit peu. Il connaissait pas vraiment le domaine de l'immobilier, tout ça. Alors, selon leur point de vue, c'est ça. Le logement était libre parce qu'il y avait une dame qui avait peur qu'il cause des problèmes parce qu'elle était âgée. Alors, il y a eu une pression qui s'est faite. On a fait un petit peu de recherche avec l'ancien propriétaire. On a parlé avec ce propriétaire-là qui, lui, a dit que il a parlé au sens large qu'ils ont fait des pressions pour la faire quitter. Puis on suppose que c'est le même type qui voulait pas avoir cette dame-là au-dessus de sa tête. C'est un type qui arrivait là, qui avait habité en banlieue de Sherbrooke, à Windsor. Puis c'est une petite localité un peu plus tranquille. Sauf que il quittait une maison, il arrivait dans un logement, puis il croyait arriver comme dans une maison de retraités.
Voilà,
il y avait des retraités juste sur le même palier, le couple qui était adjacent, c'est ça.
Il a voulu sélectionner ça. c'est des voisins, ses propres voisins.
On croit que c'est ça, parce que on a un des voisins qui est juste en dessous encore, parce que c'est, on peut dire que c'est un 6 logements, oui. mais de façon un peu mitoyenne, c'est un peu, c'était 2-3 logements, des triplex, c'est ça. Oui. Puis, ce voisin-là, qui habite, lui, le rez-de-chaussée, ou le semi-sous-sol, ben il a dit que dès qu'on est arrivé, ce type-là, le plaignant, oui. a dit de nous que cultivé. Le propriétaire avait pris n'importe qui. Non?
C'est ça. Voilà,
n'importe
c'est
qui ça. Dans
alors là, il vous accuse de cultiver la cannabis.
Mais il essaie d'obtenir gain de cause. Je crois qu'il a fait beaucoup de pression. Les propriétaires étaient un petit peu silencieux. Ils ont été réservés par rapport à ce que ce type-là leur a dit, parce que ils ont reçu des téléphones durant la nuit par ce type-là, qui les appelait à n'importe quelle heure dans la nuit, jusqu'à 2-3 heures du matin, pour dire qu'il entendait des bruits d'eau dans sa canalisation, ouais. Des écoulements. Puis il a essayé de nous mettre du tort en disant qu'on ouais. avait des moteurs. Ensuite de ça, il y a eu des bruits d'eau. Ouais. Il y a eu...
Le transport de l'hôpital à
un paquet de choses, ouais. c'est ça, pour essayer.
Intoxiquer.
Oui, c'est ça, pour se débarrasser carrément de nous, ouais. qui étaient visiblement pas dans son critère.
Je sais pas, Stéphane, si vous êtes d'accord avec moi. Moi, peut-être je le blâme même pas. Peut-être il était pas dans son état, comme vous l'avez dit, dans son mental, tout à fait. On peut accuser n'importe qui. Mais maintenant, revenons maintenant à la charge. Hein, le vrai problème, c'est l'enquêteur qui a oui. décidé d'aller chercher un mandat de perquisition et débarquer chez vous. Alors, lui, cet enquêteur-là, il se base sur quoi?
Oui.
Est-ce qu'on peut se baser simplement, et c'est ça la question, est-ce qu'on se base simplement pour oui dire de quelqu'un, ou il faut vérifier?
Oui, communément appelé oui dire, oui, c'est ça, on peut falsifier une histoire seulement par les apparences.
N'importe qui peut dire.
C'est assez facile d'observer un citoyen, puis prendre des choses l'accuser à tort simplement parce qu'il y a un style de vie un peu différent. Comme nous, on était un petit peu des adeptes du magasinage en ligne. Oui. Puis il y avait beaucoup de postes ces derniers jours. Moi, je suis, comme je vous dis, je suis concepteur. Je recevais toutes mes pièces des quatre coins du monde. Oui. Et une des pièces que j'ai reçues a été utilisée contre moi. C'est un propeller, mais c'est windmill propeller. C'est un appareil pour collecter le vent. On s'entend que c'est pas un appareil pour faire la fabrication de cannabis ou...
Mais loin de vous dire que vous vendez de la cannabis, vous êtes quelqu'un quand même vous êtes anti...
Oui, ben non, c'est ça. On est un petit peu des fervents de l'anti-tabagisme et toutes ces drogues ou je dirais des...
Enfin, j'ai bien compris. Mais c'est pas...
Ouais, c'est un peu dur à dire. On n'est pas dans le domaine. Les qualificatifs me manquent. Nous, on voulait juste avoir une petite vie tranquille. On s'en allait chercher un peu de tranquillité. Mais, ouais. Puis un peu la quiétude aussi, la stabilité. Ouais. Mais... ce qui est arrivé, c'est que ce type-là a embarré le service de police oui. dans une histoire abracadabrante oui. en apportant des faits simplement rapportés. Puis, ce qui nous obsède un petit peu, c'est qu'un type de la trempe de M. Ouimet, du détective, qui a pris directement ses oui-dire, là, comme on parle, et il l'a inscrit dans un rapport.
Sans valider
aucune des sources ou des objets dont on faisait des accusations.
Oui.
Puis, comme je vous disais plus tôt, ils ont utilisé le fait que Martine quitte en ambulance et le fait aussi qu'elle ne répondait pas à la porte quand j'étais absent de la maison. Oui. Puis ça, c'est tout à fait normal.
Ça, c'est dans le rapport, hein?
Oui,
c'est ça la justification.
Pour brouiller un petit peu notre image, oui. pour nous rendre coupables de quelque chose...
Qui n'a jamais existé, quoi.
Non, qui n'a jamais existé. Oui. Puis on se demande, c'est ça, pour finaliser un petit peu pour le rapport qui a été fait autour de toute cette histoire-là.
Mais avant de faire le rapport, il a fait le tour de la maison et de l'appartement à l'intérieur et tout, et il n'a rien trouvé de tout ce qui a été mentionné.
Ben, c'est ce qui est inscrit dans son rapport ou qui m'a mentionné personnellement, parce que je suis allé le rencontrer le lendemain, parce que j'aime bien voir mon accusateur en face.
Ouais.
Puis, non, il m'a avoué qu'il n'y avait rien trouvé d'anormal,
rien.
À part des traces de moisissures dans le plafond qui donnait sur une pièce arrière.
Chez le voisin.
Oui, c'est ça, des traces de moisissures... De la peinture renflée, comme s'il y avait une activité un peu
mais nous sommes comme
hors de l'ordinaire.
Stéphane, nous sommes comme loin d'un moteur, de quelqu'un qui cultive la cannabis, sauf que, d'un commerce illégal.
C'est un fait frappant dans cette enquête-là. Parce qu'il n'y a pas de moisissure.
Il n'y a pas de moisissure.
Il n'y en a pas de traces.
Chez vous, il a mentionné dans son rapport.
Oui, c'est ça. Et il s'appuie, il s'est servi de ces faits-là. Nous, on pense que c'est falsifié, c'est inventé pour nous inculper, étant donné qu'il y a eu erreur judiciaire.
Oui, tout à fait.
Ou erreur. Erreur, c'est un mot qu'on n'utilise plus maintenant, parce qu'on voit qu'il n'y a pas eu d'erreur. Il y a eu une intention derrière ces faits-là. Oui.
Et une incompétence aussi, hein. Et de ne pas admettre son erreur, c'est encore pire.
Ça, j'ai pas à sortir ces mots de ma bouche. Ils sont inscrits dans le rapport qu'il a écrit de sa main.
Oui. C'est troublant. Alors, je sais que cet événement, il vous a complètement, vous a changé un petit peu, non pas juste traumatisé, mais il vous a choqué, il vous a marqué. Vous avez même pris vos bagages, vous êtes parti de là, c'est encore pire. Hein?
Oui, parce qu'il y a eu un sabotage de la voiture aussi par après. Notre voiture a été sabotée par après.
Oui, oui.
Nous, trois jours après que les propriétaires sont allés visiter le plaignant, et les propriétaires ont mentionné au plaignant que nous, on avait l'intention de porter plainte.
Oui.
Trois jours après, notre voiture a été sabotée.
Oui. Oui. C'est ça qui a ajouté le feu. Alors, mais revenons à Stéphane aussi. Maintenant, à partir de ce moment-là où vous découvrez qu'il y avait des papiers quand même falsifiés, le rapport, vous avez quand même eu le courage d'aller rencontrer l'enquêteur en question. Vous l'avez mentionné. Écoutez, là, comment vous avez pu débarquer chez des gens et encore aller convaincre un juge de paix d'avoir un mandat de perquisition et tout, alors, dans le fait, vous n'avez rien sous les mains qui prouve, qui justifie cette perquisition?
Non, effectivement. Puis Martine avait posé la question lors de la perquisition à cette même enquêteur-là. Ses motifs raisonnables qu'il évoque, c'est que on avait qu'il avait repéré de la moisissure chez dans une pièce comme
adjacente. Ça, vous l'avez clarifié, comme quoi il y avait
ça, c'était clarifié. Ensuite, il y a eu une fenêtre barricadée qui parlait, une fenêtre côté sud qui donne face au soleil. Pardon?
Placardée.
Oui, placardée. Placardée, oui, c'est un terme qu'on arrive mal à s'imaginer, étant donné que c'est un store en bambou qui est semi-transparent avec une aire climatisée. On a des photos à l'appui. Nous, dans toutes ces démarches-là, on conserve, bien sûr, toutes ces copies ou ces enregistrements ou ces courriels, c'est ça, comme preuve, parce que c'est ça, monter un dossier de cette ampleur-là prend beaucoup de temps pour effectuer surtout la chronologie. Oui. Puis on y fait référence, bien sûr, parce que nous, on nous a dit des choses. C'est sur papier, puis maintenant, c'est d'essayer pour le service de police de se trouver un échappatoire à tout ça. Non,
exactement.
Parce qu'une enquête, présentement, est en cours. Et le processus en déontologie est en cours.
Oui.
Suite, bien sûr, à votre intervention, l'intervention du MAJ qui nous a donné une grande appui dans cette démarche-là.
Mais à part la déontologie policière, parce que moi, j'ai pas... À part la déontologie policière, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche?
Bien sûr, on a rencontré... On a rencontré service de police. Oui. On est allé faire une plainte. On s'est déplacé parce que c'est arrivé trois jours après la perquisition. Ma voiture est sabotée. Je brise la voiture. C'est une perte. Et je me rends pas au travail un matin. Ma roue est dévissée. Oui. J'ai une pièce dans mon pneu. Tout ça, c'est assez étrange. Alors, on va porter plainte directement au poste de police à Sherbrooke contre le citoyen.
OK.
Puis notre plainte, elle n'est pas recevable, notre plainte, parce qu'on mentionne justement...
Le nom d'eux?
On mentionne justement le nom du détective et qu'il y a... Il y a eu une fausse perquisition ratée à notre domicile, puis Stéphane, on nous refuse.
Stéphane, juste parce que vous avez mentionné le nom du détective dans votre plainte, que la plainte a été rejetée.
Dès que j'ai sorti le mandat de perquisition avec le nom du détective, on nous a dit de patienter, puis on est revenu une demi-heure plus tard, puis on a dit, oui, effectivement, vous ne pouvez pas porter plainte.
Voilà, donc je sais, Rudy Gershaw-Ostrich, on va faire juste une petite pause musicale et on va revenir pour finir avec cette histoire-là. Alors, c'est douloureux, hein. C'est, on part de l'injustice, mais là, une injustice crue. Alors, on reste sur les ondes, restez avec nous, juste une petite pause musicale, on va revenir avec la fin de cette histoire. Alors, bonjour, chère auditrice, chère auditeur, merci d'être toujours à l'écoute. Alors, on va revenir aussi avec cette histoire aussi accablante, hein, donc des gens, des citoyens, simples citoyens qui vivaient vraiment en paix. Et d'un seul coup, un jour, les policiers débarquent chez eux avec un mandat de perquisition. Justifié, pas justifié, vous allez continuer, on va continuer avec l'histoire avec Martine qui est en face de moi. Martine, je sais que vous êtes, je vous vois même jusqu'à présent, après combien de temps
Un an et demi,
vous êtes encore choquée, vous êtes encore... Parlez-moi un petit peu de cet enquêteur-là qui...
Ben moi, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais quand je lis le mandat qu'il a fait, le rapport qu'il a fait pour obtenir le mandat, oui. Je lis ça, puis pour moi, c'est un torchon. C'est que des mensonges et c'est que basé sur ce qu'une personne peut dire sans rien valider. Aucun des éléments n'a été validé. Il marque bien, c'est bien écrit noir sur blanc, qu'il marque qu'il a pu observer des traces de moisissure. Ah. Il n'y en avait pas du tout.
Ça veut dire qu'il a ajouté un peu, c'est des
mensonges. Ce qui est écrit, la fenêtre placardée, c'est pas une fenêtre placardée. Moi, lors de la perquisition, il m'avait dit que vu qu'on avait une clôture à l'arrière de notre balcon, on avait fait une clôture intimité bambou, mais qu'on voyait très bien au travers. Il m'avait dit que c'était louche, qu'on avait de quoi cacher. Puis moi, j'ai dit, ben le plaignant en bas, j'ai dit, lui, il y a une toile opaque, complètement opaque. Puis il m'a répondu, ah, lui, c'est pas pareil.
C'est ce qu'il m'a répondu.
Et lors de la perquisition, ce qu'il me disait toujours, c'est, regarde, il y a un juge qui a signé le mandat, puis il pointait toujours le mandat, puis il se défendait avec le mandat qu'il avait entre les mains. C'était comme, il y a un juge
qui a mis... Il se protège par le juge qui est derrière lui.
Il s'est protégé par le juge,
Rien juge, c'est sérieux, c'est ça.
Le rapport qu'il a fait sur le déroulement de la perquisition, ça ne s'est pas du tout déroulé de cette façon-là. Ouais. S'il a été capable de mentir sur le temps qu'il a été à la maison, qu'il a fait la perquisition, imaginez le restant. Parce qu'il marque, à la deuxième page, il marque que je lui ai mentionné que je venais d'être opérée. Et c'est la première chose que je lui ai dit quand il est monté dans les escaliers. Ouais. Lui, il l'écrit à la fin. Donc, son rapport est erroné complètement. Ils ne savaient même pas mon nom. C'est marqué identification des personnes présentes sur les lieux. C'est une parenthèse vide. Mon nom n'est même pas inscrit. Il devait écrire mon nom, prénom, date de naissance, adresse.
Il l'a pas fait.
Il l'a pas fait. Il n'y a rien d'inscrit.
Oui.
Il ne savait pas. Il m'a demandé où est Stéphane. J'ai dit, il est à son travail.
Oui.
Il ne savait pas où est-ce qu'il était, Stéphane.
Est-ce qu'il a fait
aucune information? C'est un détective qui se dit qui a un certificat universitaire, qui a aussi fait un cours de technique d'enquête sur les drogues au Collège canadien. Il se dit un enquêteur chevronné.
Spécialisé.
Et c'est un torchon.
Ouais.
Son rapport est un
torchon. Mais en fait, si je peux me permettre, oui, c'est ça, à travers tout ça, dans la chronologie, le plaignant, le voisin qui nous voulait absolument nous voir partir, c'est mentionné qu'il y a des heures insupportables où il entend du bruit qui correspond avec les heures que je pars travailler et que je reviens travailler.
Oh my God. Ça, il dit qu'il y a...
Non,
la porte, c'est ça?
Non, le bruit d'eau.
Même pas, le bruit d'eau.
La douche.
Ça, c'est la douche, c'est l'eau qui s'écoule dans les conduites d'eau du logement. Alors, c'est, si on prend ça en considération, que la façon que c'est expliqué, la façon que c'est étalé dans ce rapport-là, ben, une personne sensée, logique et consciencieuse de son travail aurait poussé un peu plus loin l'investigation, aurait fait des recherches, même au niveau de la juge, qui est très regrettable qu'elle ait émis ce mandat sans poser de questions non plus, en disant à son...
À l'enquêteur, oui.
Oui, c'est ça, à cet enquêteur-là, qui lui probablement a fait une pression le matin même pour avoir le mandat. Parce que c'est dès qu'ils ont trouvé une facture, parce que c'est le voisin qui est allé chercher la facture dans un bac de recyclage qui se trouvait dans une des boîtes que j'avais reçues. De façon anodine, que j'ai laissée dans la boîte, une facture de réception de l'objet en tant que tel. Alors, il s'est basé sur cette facture-là pour aller chercher son mandat qui était un éolienne. des pales d'éolienne. Alors, ils se sont dit cet objet-là ou cette pièce d'équipement-là, pour lui, dans sa tête, ils se sont élaborés ou échafaudés avec l'ensemble des vous-dire qu'il lui avait donné, il lui avait été transmis que cette pièce-là servait à déchiqueter une plantation verticale. Il m'a expliqué un peu le fonctionnement de ces installations-là. C'est complètement insensé, impensable de faire ça. Tu dois détourner ce qu'il me dit, tu dois détourner de l'électricité, faire fonctionner pour opérer ces machines-là. Est-ce qu'il a vérifié l'Hydro-Québec?
C'est
on
ça,
lui a posé
exactement.
La question. Il n'a pas vérifié l'Hydro-Québec.
Oui, oui.
Attention, c'est ça. Le voisin, en disant que dès notre arrivée, son taux d'humidité dans son logement, lui, en dessous, avait augmenté considérablement. Alors que les propriétaires nous ont rapporté qu'il y avait une plante à peu près au mètre carré dans son logement. Alors, s'il y avait de l'humidité, c'est lui qui l'a créée.
Mais selon vous, il n'y avait pas juste une enquête bâclée, mais il n'y avait pas d'enquête finalement.
Il n'y avait pas d'enquête. Malheureusement, une fois que j'ai rencontré cet enquêteur-là, il m'a avoué que oui, il aurait aimé ça. Dès qu'il a ouvert la porte, il s'est rendu compte qu'il venait de faire une bourde. Il aurait aimé qu'il me dise, et il m'a avoué que oui, il aurait aimé ça retourner, ne pas jamais monter ces escaliers-là quand il a vu Martine dans cet état-là. Absolument. Mais il a procédé quand même. Il a dépêché ses hommes pour faire une perquisition ou investiguer le logement, qui était impeccable. Nous, on est des gens très ordonnés, tout ça. Alors,
mais nous, on aimerait savoir pourquoi que le plaignant, pourquoi les policiers n'ont pas accusé le plaignant pour méfait public.
Oui.
Parce que de toute façon,
un
moment donné, et dans le rapport de l'enquêteur là, pour l'obtention du mandat, il dit que au mois de septembre, il y avait un débit d'eau plus élevé. Et c'est durant la semaine que ma mère était à la maison pour m'aider suite à ma convalescence,
suite
à ma sortie.
Oui.
Mais est-ce que le plaignant l'a mentionné qu'il y avait une personne de plus à la maison?
Ouais, c'est tout.
Donc,
pourquoi les
policiers n'ont pas accusé cette personne-là pour les avoir menés sur une fausse enquête, supposément?
Oui, ils ont dépensé des fonds publics pour aller traquer des innocents. Une sorte de chasse aux sorcières qui s'opère dans le secteur de Sherbrooke. On en voit plein les journaux à chaque semaine.
Et maintenant...
Ici, à Montréal. Montréal, ne s'inquiétez pas.
J'aimerais ajouter un point, c'est que le plaignant, on a réussi à obtenir d'une autre façon détournée. On a réussi à obtenir qu'il soit traduit, comment je peux
en
dire,
justice,
là,
oui,
le coroner a déposé une plainte. Donc, le coroner a déposé une plainte la couronne a déposé une plainte contre le...
Ah, le plaignant?
Oui.
Pour nous protéger.
Pour nous protéger, mais la plainte a été retirée.
Et ça,
on ne sait pas pourquoi la plainte a été retirée.
Alors,
personne ne comprend.
Alors, vous déposez à la poste de police, votre plainte a été retirée.
Et ça, c'est retiré. Finalement, on prend un autre rendez-vous téléphonique, cette fois-là. C'est une autre façon de... Une autre approche qu'on a utilisée par téléphone, on ne s'est pas trop nommé, puis on s'est identifié, on a besoin d'un rendez-vous pour rencontrer un enquêteur. Finalement, quelqu'un est chargé du dossier, puis le type en question, ben, il est interrogé. On réussit avec un peu de pression. Il a fallu que je pète les plombs au téléphone avec cet enquêteur-là.
Une autre enquêteur qui a interrogé le plaignant.
Qui continuait à nous accuser de faire de la fabrication de drogue, mais cette fois-ci,
c'était de la drogue de synthèse.
Ouais. Qu'est-ce que c'est de la drogue de synthèse? J'en ai aucune idée. Mais lui, il poursuivait ces allégations-là, et même l'enquêteur en question, Mme Moreau, m'a transmis les informations suite à cette rencontre-là avec le type. Il m'a dit, pendant une heure et demie de temps, le type était comme dans une psychose, répétait toujours la même chose, elle n'avait pas réussi à établir le contact avec le citoyen.
Et suite à ces accusations-là qui étaient rendues à la fin janvier, vers le 28 ou 29 janvier, c'est là qu'on a décidé de quitter le logement.
Étant donné que les policiers ne pouvaient pas prendre notre plainte...
On n'avait aucun appui de personne.
Non, c'est ça, notre plainte, dès qu'on a
c'est
su que notre deuxième...
Ils ne voulaient pas prendre la plainte.
Non,
on ne peut pas dire ce qu'ils n'ont pas fait ou quoi, mais on le sait qu'il n'y a rien bougé en notre faveur.
Oui.
Alors, on a communiqué avec les propriétaires disant qu'on en avait assez, il fallait qu'on quitte. Question sécurité, on ne le savait pas parce qu'on avait reçu une lettre de menace, toujours par ce voisin-là, une lettre de menace qui avait été transmise au propriétaire qui nous en avait transmis une copie.
Qui disait qu'il appellerait la police autant de fois qu'il le voudrait.
Oui, c'est ça, qu'il y avait du bruit à toute heure du jour. Alors là, il a fait des pieds et des mains pour nous rachever. Alors, on n'a pas attendu que la police débarque une deuxième fois. Alors, on a dit au propriétaire qu'on a essayé de rejoindre les propriétaires à trois reprises. J'ai essayé de les rencontrer, courriel, téléphonique. Et les propriétaires, quand ils ont vu qu'on voulait quitter, mais on voulait prendre arrangement, les propriétaires nous ont fermé un peu la porte. Déjà qu'ils nous avaient pas transmis une information importante dès le début, que le voisin nous accusait de faire de la fabrication de produits illicites.
Mais quand même, on garde toujours en mémoire comme quoi vos plaintes n'ont pas pu aboutir parce qu'il y avait le nom de l'enquêteur qui était mentionné.
On a l'impression que ça a été bloqué à beaucoup de niveaux.
On a trouvé un autre moyen pour se faire écouter parce qu'au poste de police, ils ne voulaient pas nous entendre. Donc, on a pris rendez-vous par téléphone pour rencontrer un policier. Donc, il n'y avait pas le choix de nous écouter.
Stéphane Martin, je veux juste revenir un petit peu sur le fait que vous avez déménagé. Ça vous a causé énormément de stress.
Perte de santé.
Ça s'est passé quand même 2 mois sans trouver un logement réellement
suite à ça. Les effets de causalité de tout ça, perte de santé, bien entendu. J'ai été en arrêt de travail durant des mois. J'étais surchargé par la pression, fatigue intense. Je ne suis plus capable de pratiquer mon métier, plus de concentration. J'ai failli, de passer près d'être blessé, c'est ça. J'ai décidé de prendre...
Alors, vous êtes parti de Sherbrooke, vous êtes arrivé ici à Montréal, vous vivez présentement dans la région de Montréal.
Oui, perte d'emploi aussi, il a fallu que je quitte l'emploi et tous nos projets ont été abandonnés.
Et tout ça, on peut étaler sur plusieurs pages, j'imagine, le stress et qu'est-ce qui vous a causé cette situation-là. Mais tout ça, c'était si cet enquêteur-là en question, il a fait son travail comme il fallait. hein, comme il faut, ça a pu éviter tout ça. Tout
ouais.
ça.
Il y avait
ouais.
un minimum. Il y avait un minimum de travail et il n'y a pas été fait.
Pas
il n'a pas été fait et nous, on a subi toutes ces conséquences-là.
Avant l'événement, quelle était votre opinion vis-à-vis au système judiciaire? Est-ce qu'il a changé par rapport à avant, aujourd'hui?
Mais une fois que tu t'es frôlé à ce domaine qui est complètement inconnu pour le pur citoyen, à part d'avoir des contraventions, qui a des affaires avec la police?
Mais vous n'avez jamais de contraventions depuis 25 ans.
Non, c'est ça. On vit dans le respect, puis dans l'intégrité. Je veux dire, s'il y a un minimum en tant que citoyen, si on veut faire avancer une société, il faut tous faire sa part.
Mais avant cet événement...
Je veux dire, tu subis une injustice comme ça. Martine qui disait plutôt que sa peur, elle, c'était que... Que quelqu'un rentre à la maison, c'est ça. Ah, mais moi, c'était que d'être accusé de drogue. Je crois que c'est une accusation extrêmement grave. Puis d'avoir pris des détours comme ça pour atteindre des innocents, pour faire tomber des innocents, quel est l'objectif de tout ça? Qui gagnait de tout ça?
Oui,
Même l'enquêteur.
Qu'est-ce qu'il avait à gagner?
Maintenant, la question est précise aussi. Quel est le sentiment que vous avez vis-à-vis de notre système judiciaire présentement?
Aucune confiance.
Je vais vous donner la parole à Stéphane pour vous.
Oui, bien, c'est sûr. Comme Martine, je crois qu'on est...
Il y a quelque chose qui est brisé en vous, là, par rapport à ça?
Ah oui.
Ben nous, je crois que notre confiance a été branlée, bien entendu.
Oui.
On vit tous un peu dans une bulle, mais dès que notre bulle est crevée, dès que tu brises...
C'est ça.
Si tu veux tuer un homme, ben, tu tues son rêve. Hein.
Oui, my God. À vous, dernière, les gens qui vous écoutent, Martine, pour ce matin, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que vous encouragez de continuer le combat dans des situations semblables ou bien de rester dans le coin, dans votre coin?
Non, je trouve que c'est mieux d'en parler parce que je trouve que les policiers ont beaucoup trop de pouvoir, ils ont beaucoup trop d'immunité.
Oui.
Et si personne n'en parle, mais il n'y a jamais rien qui va bouger. Moi, j'ai espoir qu'un jour, plus les gens vont en parler, puis j'ai espoir qu'ils perdent un peu de pouvoir et d'immunité.
Oui.
Parce que
moi,
j'étais complètement terrorisée, puis c'est un peu... personne ne mérite ça.
Oui.
Personne ne mérite ça.
Vous avez vraiment un sentiment amer à vous regarder.
Très, très amer, très amer, parce que je suis traumatisée quand je suis toute seule à la maison, puis je veux pas aller prendre ma douche toute seule s'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, parce que c'était ce que j'étais censée faire quand ils sont rentrés, puis j'ai changé d'idée à la dernière minute, puis j'ai décidé de faire autre chose, donc il y avait de fortes chances que je sois dans la douche quand ils sont rentrés.
Stéphane et Martine, je vous dis vraiment merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, surtout de partager avec les gens qui vous écoutent ce matin, chers auditrices, chers auditeurs. Vous avez vu l'exemple que vous avez ce matin, c'est vraiment de continuer à dénoncer, c'est une première partie de votre combat. Alors, je vous invite tous, si vous vivez, vous êtes témoin ou victime d'une injustice ici au Québec, de nous appeler au 514-273-4302. Je répète, 514-273-4302. On vous attend. Cette tribune, elle est pour vous, pour justement dénoncer les injustices à travers le Québec. Sur ça, je vous dis, chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne... merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, je vous donnerai rendez-vous à la semaine prochaine. Et je remercie, Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cette fenêtre pour que la parole de l'autre existe. Sur ça, je vous dis, passez une excellente fin de semaine. Au revoir.
À condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur.
absente sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré.
Ici Marc-André Coallier
et Ève Landry,
heureux porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la relève, présenté par Loto-Québec en collaboration avec Québecor.
17 au 18 avril, venez découvrir les grands noms de demain dans 6 salles de Montréal.
Originaux et audacieux, ces spectacles reflètent les tendances de l'heure dans toutes les disciplines des arts de la scène.
Mur affirmé, bien ancré depuis 20 ans, le festival demeure à l'image de ses artistes. Jeunes, passionnés, fougueux, amoureux des arts et animés d'une énergie revitalisante.
Billets à vuesurlarelève.com.
Vous voulez passer le TEF, le TEFAC ou le TEF professionnel pour les consultants? Vous ne savez pas quoi faire et comment réussir ce test? Contactez notre centre agréé au 514-844-4849 ou visitez notre site web au www.alcmontréal.com. ALC Montréal, une équipe de professionnels à votre disposition. Alors appelez-nous au 514-844-4849. ALC Montréal, centre agréé par la CCIP en partenariat avec Citoyenneté et Immigration Canada.
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts.
Radio Centreville,
102,3 FM, un monde différent.
Radio Centreville, 102,3 FM.